Dans L'Argent de Poche, on tend le micro à des comédiens et des comédiennes pour qu'ils nous racontent les galères, les débrouilles de leur début. Certes, aujourd'hui, ils sont riches et célèbres.
Oui, enfin pas
mais
tous.
Mais hier, ils ont dû faire 1000 petits boulots avant de rejoindre le haut de l'affiche.
Alors que s'ils avaient eu l'application gratuite Au Max pour moi, ils auraient pu gérer leur argent facilement en réunissant tous leurs comptes et toutes leurs cartes au même endroit. Et ils auraient pu aussi augmenter leur pouvoir d'achat avec du cashback dans les plus grandes enseignes, profiter du zéro frais à l'étranger et payer avec leur téléphone ou leur montre connectée.
Ok, mais quand certains ont commencé, il n'y avait même pas le Bebop.
L'appli Au Max pour moi vous souhaite une bonne écoute de L'Argent de Poche.
Auteur.
L'Argent de Poche.
J'ai plein de projets en ce qui te concerne.
L'Argent de Poche.
Tu veux pas me prêter 1000 balles?
C'était quoi la question?
Qu'est-ce que tu sais faire?
Je gagnais ma vie en travaillant dans un magasin. L'Argent de Poche, les grands acteurs aussi ont commencé petit.
Comédienne à la fois discrète et prolifique, aperçue chez Bertrand Blier, Bertrand Tavernier et au générique d'une centaine de films depuis la fin des années 60, à 88 ans, Liliane Rovert est aujourd'hui au sommet de sa renommée pour ses rôles de doyenne dans les séries 10% et Family Business. Pour ce nouvel épisode de L'Argent de Poche, le podcast de Sofilm qui revient sur les petits boulots des grands comédiens, nous la rencontrons chez elle, dans le quartier du Faubourg Montmartre. Mais c'est dans une cave à jazz de Saint-Germain-des-Prés que celle qui fut la muse de Chet Baker pendant 2 ans commence son histoire.
Le Tabou, ben, c'était un endroit mythique, on le sait. C'était une grande cave, sombre, enfumée, qui sentait la cave, et où il y avait la musique, il y avait le bebop, il y avait... C'était une cave qui avait été initiée, qui avait été découverte, je crois, j'ai cru entendre dire que c'était par Juliette Gréco, associé à Boris Vian. Donc Boris, il aimait le bebop, il aimait le jazz plus que le New Orleans. Et donc j'allais au Tabou, je ne sais pas par quel effet, par quel miracle, je ne sais pas, j'avais pas un sou sur moi, je ne mendiais pas, je ne demandais pas de service, mais je me retrouvais dedans, je ne sais pas comment j'entrais. On devait me laisser entrer comme ça. Et bon, ben le Tabou, ben le Tabou, c'était le Tabou. Mais j'ai rencontré après Boris Vian. Je l'ai rencontré plus tard, je l'ai rencontré à Saint-Germain d'abord, pendant des nuits qui se finissaient le petit matin sur le bord de la Marne, et où les musiciens jouaient à 6h du matin bourrés au bord de la Marne. Ben, je traînais comme à Saint-Germain-des-Prés, jour et nuit au quartier, mes parents ne savaient pas ce que je faisais, et ma mère m'a demandé « mais qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai répondu comme ça, du bebop. J'étais folle de cette musique et des musiciens qui la faisaient. Je ne voulais pas du tout dire par là que j'allais, moi, jouer du bebop, mais je pense que je voulais être dans ce contexte. Je pense que je voulais être parmi ces gens-là. J'ai répondu ça comme ça. Et mes parents m'ont envoyé aux États-Unis chez mon oncle Maurice à New York, espérant que je trouverais un mari américain et une situation, j'imagine. Enfin, c'est ce que je pense que c'est ce qu'ils avaient dans la tête. Moi, pas du tout. Moi, j'y suis allée parce que quand ils m'ont dit New York, j'ai entendu jazz. Donc, j'ai dit oui. Le matin, je suis arrivée chez mon oncle. Et le soir, j'étais déjà au Birdland, qui était une très, très célèbre boîte de jazz sur la 52e rue, qui accumulait beaucoup de boîtes de jazz et des programmes fabuleux. Moi, je venais toute seule, je connaissais personne. Je venais toute seule, ce qui ne se faisait pas. Une fille toute seule au bar. Moi, je faisais comme à Paris, quoi. Je me mettais au bar parce que c'était moins cher et puis parce que je connaissais personne. Et au bar, c'était infesté de macros, de pimps, qui venaient se grouper autour de moi pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de moi. Et j'étais tellement naïve et tellement... pas sotte, je ne pense pas que je fus sotte, mais j'étais tellement naïve, souriante, et tellement innocente, qu'ils se disaient qu'ils ne pouvaient rien faire de moi et qu'ils n'ont rien essayé avec moi. Mais c'est là que Chet m'a repéré, parce qu'il est venu au bar se présenter et essayer de m'emmener avec lui, quoi. Ça a marché. Ça a marché. Moi, je le trouvais très mignon. Il était beau, il était jeune, il était célèbre. C'était célèbre, je m'en foutais pas mal. J'ai jamais été tellement branchée là-dessus, mais enfin, il était quand même... il avait quand même cette aura. Il jouait bien, il chantait bien. J'aimais beaucoup le disque où il chantait. Il est venu chez mon oncle et ma tante en disant « je l'emmène ». Mon oncle et ma tante ne savaient pas qui il était. Il s'était bouche bée. Je l'ai suivi, je suis partie avec lui. Et puis un jour, je suis tombée sur un employé qui a guignette. Donc, plus de visa, fallait que je rentre. Moi, je me suis retrouvée à Paris comme ça, donc je me suis dit, il faut que je travaille, faut que je... Donc, j'ai été faire la plonge au tabou. J'ai été dans les endroits que je connaissais. J'ai été faire la plonge au tabou, j'ai été faire la vestiaire au caméléon, j'ai été faire la barmaid au la serveuse au caméléon, j'ai été faire la barmaid de... Enfin, j'ai fait des jobs un peu partout comme ça pour vivre, quoi. Vendeuse, serveuse, barmaid, toutes choses pour lesquelles je n'avais pas de diplôme, mais beaucoup de dispositions. Je vivais de peu, mais ça me troublait pas beaucoup, quoi. Je détestais être vendeuse. J'étais excellente, je vendais tout ce que je voulais, mais je détestais ça. Et en revanche, j'aimais bien être barmaid. Parce que j'étais libre dans mon bar, je m'organisais, il y avait des clients, il y avait des gens, j'avais pas de patron sur l'épaule qui me surveillait, j'aimais bien. Quand j'étais barmaid au caméléon, c'était moi qui devais non seulement servir toute la salle au rez-de-chaussée, mais qui devais aussi mettre tous les disques que les gens demandaient, et dans l'ordre. Parce qu'il y avait une magnifique collection de disques. C'est là que je me souviens avoir entendu Ray Charles pour la première fois, avec le disque commercial qu'il a fait, What I'd Say, et qui était une merveille, qui est toujours une merveille. Les choses qui sont des merveilles restent des merveilles, elles ne se démodent pas. J'avais trouvé un job dans un bar, qui s'appelait le Bar des Amis, qui était tenu par un Sicilien, ou un Calabrais. C'était un monsieur qui était très dur, très sombre, un Calabrais comme on en verrait dans la mafia. Il aurait pu jouer dans un film de mafieux, qui était très avare et qui me volait même mes pourboires. Mais il était amoureux fou de sa fille, 15 ans, Carmen, qui était une beauté. Sa femme, elle naviguait tous les après-midi, je sais pas où elle allait, très coquette, etc. Je pense qu'elle était cocu à tour de bras. Et lui, il tenait le bar. Et puis un jour, j'en ai eu marre de lui, parce que je faisais le ménage le matin, il me piquait mes pourboires. Il était vraiment tellement... C'était un monsieur très dur, très sombre. J'en ai eu marre de lui. Je l'ai plaqué, je suis sortie dans le soleil, à Nice, sans savoir où j'allais, sans savoir de quoi je vivrais. C'est là que j'ai vu une annonce où on cherchait des hôtesses, mais c'était un autre genre de bar. C'était un bar qui recevait surtout des Noirs américains avec des hôtesses pour Noirs américains. Là, je suis restée que 3 jours parce que je parlais très 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 bien l'anglais. J'étais tout sauf une prostituée, donc les types ils s'agglutinaient autour de moi. Parce que je discutais avec eux normalement, parce que moi j'ai toujours été normale, je n'ai jamais eu, Dieu merci, de réflexe raciste. Je ne sais pas ce que c'est. J'en veux pas, mais heureusement, je suis comme ça. Donc ces types-là, entre les matelots qui venaient là-dedans, ils m'adoraient. Et les filles faisaient la gueule. Je me suis dit, je vais avoir des problèmes avec ces filles-là. Donc je suis partie. Par la suite, ma mère m'a dit, fais quelque chose avant qu'il soit trop tard. J'ai fait quelque chose avant qu'il soit trop tard. Je suis allée chez René Simon passer une audition. J'ai été engagée. Enfin, j'ai été engagée, c'était pas un emploi. Je payais pour ma mère payait pour mes cours. Je ne rêvais pas d'être comédienne parce que je ne le formulais pas. Mais je ne pensais qu'à ça. Je me jouais des rôles dans la classe. En général, des rôles d'héroïne romantique, mélodramatique. J'ignorais absolument que je pourrais faire rire. Ça, c'est une chose que j'ai découverte plus tard et qui m'a comblé de joie. Et René Simon me disait, tu feras jamais rien, t'es la meilleure, mais tu faisais toujours fourré avec tes musiciens. Mais vous savez, je ne savais pas comment vous expliquer. Je n'avais pas de regard sur cette profession. J'avais pas d'ambition, j'avais pas de calcul. Je vivais comme un oiseau sur la branche. J'étais engagée au TQM de Marseille. Et j'ai été engagée au Théâtre de Bourgogne. J'ai choisi le Théâtre de Bourgogne. Et j'ai fait mes débuts au Théâtre de Bourgogne. J'avais un contrat de 6 mois. Il fallait que je quitte Bibi, ce qui m'arrangeait un peu, pas lui. Et Tania, j'ai lui demandé qu'est-ce que je fais. Elle me dit, allez travailler, allez-y. Donc j'y suis allée. Donc j'ai commencé à être vraiment comédienne là-bas, parce que je suis tombée sur une troupe extrêmement professionnelle, extrêmement talentueuse, extrêmement dure, à vivre pour moi. Je suis tombée dans un truc, mais vraiment, c'était très, 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 très dur pour moi, mais j'ai fait mes classes là-bas. Le plus dur, c'est que j'étais une fille pas du tout sûre de moi, avec aucune assurance, donc fragile, et que eux, ils étaient durs comme des cailloux. Sauf Roland Bertin, qui était un peu le roi de cette troupe, parce que c'était le plus doué, qui a fait une carrière magnifique, et Roland, il m'aimait beaucoup, et il me protégeait pas beaucoup, mais il m'aimait bien. Et je me suis débrouillée comme j'ai pu, j'ai survécu. Vous savez, on travaillait dur, hein. On descendait les décors, on remontait les décors, on nettoyait les costumes, on faisait tout. Mais je gagnais petitement ma vie, mais je la gagnais quand même. Quand j'ai eu terminé ce contrat et que je suis rentrée à Paris, me suis dépêchée, je ne sais pas pourquoi, toujours par instinct, de m'inscrire à la CGT pour avoir un syndicat. Pour me défendre et pour gagner ma vie avec ma fille, chaque fois que je ne faisais pas un boulot de comédienne, je filais chercher des boulots à côté. Et j'étais plus spécialement, je travaillais beaucoup au Journal d'Humanité. À l'époque, il était au coin du Faubourg Poissonnière, près des grands boulevards. Et je faisais le bar. Donc il fallait transporter des gros machins pour alimenter des trucs, je faisais tirer des bières, il fallait faire 400 cafés le matin, 400 apéros à midi, 400 apéros le soir. La nuit c'était les typos. La journée c'était donc je travaillais, il y avait donc les ouvriers et les journalistes. Et tous me reconnaissaient parce qu'ils me voyaient à la télé. Mais moi je m'en foutais, personne m'embêtait. Chaque fois que j'avais pas de boulot comme comédienne, je filais chercher un boulot n'importe lequel. Je me souviens d'une fois où il me manquait des heures pour faire mes assédiques, pour avoir mes heures de chômage. Je suis allée au puce et j'ai trouvé les 24 heures qui me manquaient en vendant des montres dans un magasin où les gens voulaient me garder. Ils me disaient, mais qu'est-ce que vous êtes, une bonne vendeuse, vous aimez vendre? J'ai dit non, je n'aime pas ça, mais je vendais tout ce que je voulais. J'étais très débrouillarde pour ça. Personne ne m'a permis d'entrer dans le monde du cinéma. Vous savez, il n'y a pas de règles, j'avais pas de méthode. Une chose en amenait une autre. Je ne sais pas très bien pourquoi. Si, je crois que le premier film que j'ai fait, c'était un film français qui s'appelait Le portrait de Marianne. J'avais un petit rôle, je n'ai pas dormi de la nuit. Parce que par peur d'avoir mauvaise mine, j'ai pas dormi de la nuit, alors j'ai eu mauvaise mine, et j'ai eu peur, et je me souviens parce que j'ai vu ce film et j'étais à chier. Ben parce que j'étais tellement coincée, enfin ils s'en sont pas trop aperçus. Ils s'en sont pas trop aperçus, mais moi... J'étais une comédienne qui était faite pour être comédienne, parce que c'est vraiment mon métier. Mais je n'étais pas faite pour être comédienne par mon caractère. Puisque je n'avais aucune ambition, aucune stratégie, aucune tactique, et j'avais une peur bleue, j'avais toujours peur d'être mauvaise, j'avais le trac, et je transcendais ça, je m'asseyais sur mes peurs et je le faisais. Vous voyez l'âge que j'ai maintenant, depuis un certain temps, depuis une quinzaine d'années, j'ai pris, peut-être pas de l'assurance, mais j'ai perdu de la peur. J'ai perdu de la peur. Alors, il peut m'arriver encore, le trac peut m'attendre au tournant et me surprendre à un moment où je l'attends pas. Ça peut m'arriver encore. À ce moment-là, comme j'ai du métier, et que j'ai travaillé avant, que j'ai quelque chose à jouer, que je sais, que je raconte pas n'importe quoi, je me débrouille. Je perds pas trop le nord. Mais sinon, quand je n'ai pas peur, j'ai un grand plaisir à jouer. Quand j'ai pas peur, j'ai un grand plaisir à jouer. J'aime jouer. Je m'amuse. Et quand j'ai pas peur, je suis inventive. Quand j'ai pas peur, je suis capable de manger ma soupe à l'envers en faisant les pieds au mur, tout en disant mon texte. Quand j'ai pas peur. Pour moi, il vaut mieux ne pas avoir peur. Donc ma préparation, quand je travaille, c'est d'être de bonne humeur. C'est de pas être chagrine, inquiète, de pas être crispée, de pas être tendue, et surtout de pas être tristounette. Surtout, même si je dois jouer un rôle où je dois pleurer toutes les larmes de mon corps. Donc dès que je suis gaie, dès que je suis de bonne humeur, dès que je suis gay, j'ai la porte ouverte pour jouer.
L'argent de poche.
L'argent de poche.